On fait là ce matin la première des trois séances que nous vous proposons, de trois séances d'études que nous vous proposons. À chaque fois pendant les semaines Sésame, les thématiques générales sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on réfléchit sur des rites, on réfléchit sur des mythes et on réfléchit sur des symboles. Et cette semaine, ce qui est particulier, c'est que nous allons réfléchir sur des rites, mythes et symboles relatif à la Renaissance. Et ce matin, nous avons choisi de réfléchir sur le sens des rites de purification. Et donc, c'est cette notion de purification que nous allons explorer un peu. Comme préliminaire, je dirais simplement deux ou trois petites choses. Au Sésame, nous nous attachons à ce qu'il y ait une transmission. Une transmission qui est la plus ouverte qui soit, puisque comme on vous l'a dit, comme vous le savez, nous ne sommes pas une voie particulière. Et vous verrez que dans ce que je vous proposerai au sujet des rites de purification, je ferai des références qui sont des références à telle ou telle tradition, sans en privilégier aucune. Nous sommes persuadés que nous avons d'abord à être des héritiers, parce qu'aujourd'hui, le sens que nous cherchons, eh bien, nous reprenons simplement, en cherchant ce sens, le flambeau de millénaires de méditation, de millénaires de questionnement, de millénaires de sagesse, de femmes et d'hommes qui nous ont précédés, et dont nous avons à hériter, parce qu'ils nous ont transmis un certain nombre de questions et de savoirs. Et pour prendre une analogie directement liée au lieu, c'est comme si je voulais travailler sur le. Si je ne me sers pas de ces héritages, c'est comme si je voulais travailler sur le lieu avec mes mains, sans savoir qu'il y a à ma disposition une cabane à outils. Vous voyez ? Et cependant, nous avons à être des héritiers créateurs, c'est-à-dire à aller chercher pour chacun d'entre nous ce qui, dans ces héritages, dans la masse énorme de ces héritages, pourrait nous convenir et nous aider. C'est-à-dire servir de support à la vie spirituelle la plus libre et personnelle qui soit. Et donc il y a cette tension dans chaque vie spirituelle entre ce qu'on reçoit et ce qu'on crée à partir de ce qu'on reçoit. C'est pour ça que nous on dit qu'on est des héritiers créateurs. Voilà, donc ça c'est le premier point. Alors, je vais m'en tenir là d'ailleurs. Donc, au sujet des rites de purification. je vais proposer quelque chose en deux temps, rapide, hein, je vous rassure. Dans un premier temps, je vais parler des rites de purification tels qu'ils sont définis, tels qu'ils sont compris dans un certain nombre d'univers qui sont des univers religieux, c'est-à-dire pour la religion commune. Et puis, dans un deuxième temps, on ira vers une compréhension peut-être du sens de la purification et des rites de purification plus profondes que ce que propose le sens commun ou de ce qu'appréhende le sens commun. Alors d'abord, dans un certain nombre de religions, ces rites de purification sont présents comme des rites préparatoires qui utilisent notamment le support de l'eau. On va dire deux mots là-dessus. C'est l'Indien qui se baigne tous les matins dans le Gange, en visant non pas la propreté, mais la pureté. Il y a une différence entre propreté et pureté qui peut nous solliciter. Le contraire du pur, ce n'est pas le sale, c'est l'impur, et le sens de l'impur, c'est l'impropre. Qu'est-ce que c'est que l'impropre ? Donc chacun peut réfléchir là-dessus, ça je dis pas plus. Qu'est-ce que c'est que l'impropre ? C'est impropre, je ne peux pas m'en servir, c'est impropre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon. Vous voyez tout de suite, quand on entre comme ça dans la réflexion sur des choses qui nous ont été léguées, c'est quelque chose qui va aider notre liberté spirituelle, c'est-à-dire qui va aider notre discernement personnel. Parce que immédiatement, on est sollicité à se positionner, on se dit, mais moi, au fait, dans ma vie spirituelle, ça peut avoir de la place, ça, ou pas ? Ça peut avoir du sens, ou pas ? Ça peut m'aider, ou pas ? Ça peut m'aider de méditer sur la différence entre le propre et le pur. Quand je m'apprête à me mettre, par exemple, en silence, est-ce que ça aurait du sens pour moi que de chercher un état de pureté ? Qu'est-ce que ce serait qu'un état de pureté ? etc., etc. Bon. Donc, c'est l'Indien qui se baigne dans le Gange. C'est le juif qui, le matin également, avant les prières, va se baigner dans ce qu'on appelle le mikvé, peut-être tu pourras en parler, du bain rituel. C'est le musulman qui fait ce qu'en arabe on appelle wudu, c'est-à-dire l'ablution, une ablution. Donc c'est une purification par l'eau. Pour les musulmans, il y a une petite ablution et une grande ablution. Il y a une petite ablution qui se fait de manière systématique à chaque fois qu'une prière va être faite, une des saintes prières rituelles. Et puis il y a une grande ablution qui se fait lorsqu'on est considéré comme état. Là, je prends le vocabulaire religieux. Hein. Lorsqu'on est dans une situation de grande impureté, alors cette grande impureté peut être causée par plusieurs choses. Par exemple, pour l'homme, par l'éjaculation, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a eu un acte sexuel consommé, on est considéré comme étant en grande impureté. Alors voilà, il y a tout un ensemble de catégories comme ça. Voilà. Au sortir de la période de menstruation également, hein, on est considéré par la religion, là, dans l'islam, comme en état de grande impureté. Voilà, donc dans un certain nombre de traditions, cette purification, j'énumère pas, hein, on pourra parler, certains parleront sans doute du baptême, etc., qui se fait aussi par immersion, que ce soit enfant, au plus près de la naissance, ou aujourd'hui, notamment dans un certain nombre de courants évangéliques à l'âge adulte. Elle se fait par l'eau. Pourquoi par l'eau? Parce que l'eau est symboliquement toujours une eau de source. C'est ce qu'on appelle une eau de source. Mais ça, il faut l'entendre au sens symbolique. C'est-à-dire que l'eau symbolise la source. L'eau symbolise la source, c'est-à-dire que l'eau symbolise le lien dans ce monde avec l'origine de ce monde, qui est, pour les différents univers traditionnels, une origine transcendante. C'est-à-dire que l'eau est le lien, en tant que source de vie, entre la vie dans ce monde, la vie dans cette existence, et ce qui est créateur de cette vie, le principe créateur de cette vie. Et donc par l'eau, il y a purification, parce qu'il y a régénération, parce qu'il y a cette transfiguration de soi, cette transfiguration du corps par l'élément de l'eau qui nous relie à quelque chose qui est ailleurs. Hein? On remonte à la source, toujours quand on... C'est-à-dire on remonte en réalité. La source, ce n'est pas le passé, c'est l'origine. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on trouve dans un certain nombre de traditions, et on ne peut pas comprendre, je pense, la notion de pureté et de purification si on ne fait pas référence à une autre distinction qui est très présente, qui est constitutive de la vie spirituelle dans les univers traditionnels. La distinction entre le pur et l'impur renvoie à la distinction entre le profane et le sacré. C'est-à-dire qu'on a à se purifier quand on sort d'un espace profane et quand on entre dans un espace sacré. Parce qu'il s'agit de se montrer digne de la sacralité de l'espace dans lequel on entre, pardon. Et donc la purification, c'est une préparation nécessaire à entrer dans l'espace sacré, à entrer dans le lieu sacré, à entrer dans le rite sacré, à entrer dans le temps sacré. Et cette distinction entre le profane et le sacré, à l'extérieur de nous, je dirais, va de pair dans les univers traditionnels avec une distinction entre les deux dimensions de notre humanité, l'âme et le corps. La nature céleste et la nature terrestre, la nature sensible et la nature divine. Et toujours les rites de purification portent sur le corps, c'est-à-dire on purifie le corps, c'est-à-dire qu'on purifie la partie profane, on purifie la partie terrestre, on purifie la partie animale, on purifie la partie sensible. pour que le corps ne soit plus, comme il l'est de manière ordinaire, le tombeau de l'âme, mais pour qu'il devienne le temple de l'âme. C'est-à-dire pour qu'il soit lui-même sacralisé, de telle sorte que, étant sacré, il puisse pénétrer dans l'espace sacré sans le souiller. Voilà, si vous voulez, un certain nombre de significations. Alors ça nous ramène, là on va avancer un peu, passer petit à petit de ces significations religieuses courantes à quelque chose d'un peu plus, peut-être un peu plus subtil. Quand vous dites pur, quand vous dites rite de purification, vous dites pur. Quand vous dites pur, vous évoquez un concept. Qui est un concept qui a un sens très précis. C'est pas Malika qui me dirait le contraire, puisque en chimie, un corps chimiquement pur, c'est un corps qui ne recèle pas de corps étranger. Comment?
Intègre.
Intègre, exactement. Sans mélange. Donc en fait, le pur s'oppose au mélangé ou au mêlé. Et là, je reviens en arrière, c'est la raison pour laquelle le corps demande à être purifié pour que d'une certaine façon, il se mette à ressembler à l'âme, qu'il devienne aussi pur que l'âme. Parce que sinon, si moi, l'être humain, j'entre dans le lieu sacré sans m'être purifié, eh bien, j'y rentre en étant mélangé. C'est-à-dire, j'y rentre avec ma partie terrestre, j'y rentre avec ma partie céleste, etc. Et dans une parole fameuse des différents univers traditionnels, c'est on ne peut aller vers le pur qu'en étant pur. C'est-à-dire, on ne peut aller vers le sans mélange qu'en étant soi-même sans mélange. Qu'est-ce que c'est que le sans mélange? C'est une des définitions du divin dans les univers religieux. Le divin est le sans mélange. Pourquoi est-ce qu'il est sans il est sans mélange? Parce qu'il n'est pas mélangé de temps et d'éternité, de relatif et d'absolu, de vrai et de faux, d'illusion et de vérité. Il est tout entier vérité, il est tout entier réalité, il est tout entier conscience, donc il est pur. Vous voyez? Il n'y a pas en lui de défaut, il n'y a pas en lui d'altérité, il n'y a pas en lui d'altération. Voilà. Donc il y a toujours cette idée que ce qui se ressemble s'assemble et que c'est en se ressemblant qu'on s'assemble. Et donc ce n'est qu'en étant pur qu'on peut aller vers le pur. Voilà. Ça c'est tout ça, c'est cette intelligence, je dirais, qui nous a été transmise. Alors maintenant, d'une manière plus profonde, la purification, le rite de purification est toujours un rite préparatoire au rite proprement dit, mais en réalité, quand on réfléchit au rite, à la fonction du rite, de tout rite, on peut considérer que tout rite est un rite de purification. En quel sens? Au sens où la purification n'est pas seulement la purification du corps, mais la purification plus essentielle à travers la purification du corps, de l'intention. La purification de l'intention, c'est-à-dire que à chaque fois que vous vous mettez dans une attitude de rite, dans une disposition de rite, vous vous purifiez, c'est-à-dire que vous passez d'un état de mélange à un état de non-mélange. Qu'est-ce que ça veut dire? L'état de non-mélange, c'est je suis mélangé parce que je pense à plein de choses, parce que je fais ceci, parce que je fais cela, parce que je vis ceci, parce que je vise cela, parce que je désire ceci, parce que je désire cela. Et la vie spirituelle, par rapport à ça, qu'on se correspond au passage du non-mélange de mélange au non-mélange, parce que petit à petit, l'intention s'unifie dans la concentration intérieure la plus approfondie possible, la plus soutenue possible, sur ce qui vous paraît être l'essentiel. Vous allez chercher à l'intérieur de vous-même l'écoute de l'essentiel. Et donc, c'est en soi un rite de purification, quel que soit le rite. Parce que le mouvement intérieur que vous opérez, c'est toujours un mouvement pour passer du mélange, c'est-à-dire de la dispersion entre mille et un centres d'intérêt, à la focalisation, la consécration exclusive de vous-même à cette écoute de l'essentiel. Vous voyez? Et donc, dans ce faisant, vous continuez à essayer d'être pur. Et l'image que prennent un certain nombre de sages, notamment en Extrême-Orient, c'est l'image de la flèche qu'on pointe comme ça. Vous voyez ? C'est-à-dire la flèche qu'on pointe, qu'on aiguise, c'est la concentration de l'attention et jusqu'à obtenir une fine pointe de flèche. Vous voyez ? Et la fine pointe de la flèche, une fois que la flèche est parfaitement aiguisée, symbolise la réunion en un point, qui est la pointe de la flèche, en un point de tout votre être. Et c'est au moment où tout votre être va être concentré en un point qu'il va pas pouvoir passer, comme par un trou de souris, ailleurs. Vous voyez ? Et là encore, on retrouve cette condition dont je parlais au départ. C'est si vous vous êtes concentré et que vous êtes devenu un, que vous pourrez aller vers l'un. Vous voyez ? Donc concentrer au maximum la pointe de flèche. C'est-à-dire que c'est à la condition d'avoir pointé la flèche jusqu'à ce que la pointe ne soit plus qu'un point, que vous pourrez prétendre à atteindre avec cette flèche le cœur de la cible. Parce que le cœur de la cible est un seul point. Donc pour atteindre le cœur de la cible qui est un seul point, il faut d'abord réussir à devenir soi-même un seul point. Vous voyez ? Voilà, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle toutes les traditions spirituelles, je vais vous donner deux références, insistent sur l'importance de ce travail de concentration, de consécration, que certaines expriment donc à travers la notion de pureté. Par exemple, il y a une phrase très importante, très simple, à ce niveau-là, dans l'évangile de Matthieu. Matthieu qui dit, on l'avait lu l'évangile de Matthieu, Matthieu qui dit « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Donc là, vous voyez, il n'est pas du tout question de la purification extérieure, de la purification du corps, il est question de la purification du cœur, c'est-à-dire la purification vraiment de l'intention, de l'orientation, de la consécration, jusqu'à ce qu'elle devienne pure, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle devienne parfaitement intègre ou entière. Vous voyez ? Et la deuxième référence, c'est dans ce livre, alors moi j'aime beaucoup ce livre, hein, il est dans la bibliothèque, c'est la Bhagavad Gita, qui est vraiment le grand viatique spirituel de la vie hindoue. Il dit, il parle justement de ce travail de purification de la... En réalité, si je le dis en plus à manière un peu hindoue, de la dévotion, c'est-à-dire de la consécration de soi. Il dit, celui dont l'intelligence est éclairée, qui se maîtrise par la fermeté de sa volonté, qui s'est dépris des objets sensibles, sonores ou autres, qui, frugal, a dépassé la dualité de l'attraction et de la répulsion, qui se tient dans la solitude, contrôle ses paroles, ses pensées et ses actions, s'adonne à la méditation en pratiquant un perpétuel détachement, qui s'est affranchi de l'ego, de la violence, de l'orgueil, du désir, de la colère, de l'esprit de possession. Celui qui est désintéressé et apaisé, celui-là est mûr pour se fondre en Brahman. En Brahman, c'est-à-dire pour ne faire plus qu'un avec l'un, du principe créateur de toute chose que les hindous appellent le Brahman, qui est le divin suprême. Voilà. Voilà, donc c'était juste un petit aperçu, je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, il y a cette dimension, je dirais, exotérique, c'est-à-dire vraiment commune, etc., avec l'idée d'un rite qui, un, ne serait que préparatoire, ce qui semble lui donner une dignité inférieure dans l'ordre des rites, et deux, qui ne serait qu'une purification du corps, mais en réalité, quand on approfondit le sens du rite purificatoire, on s'aperçoit de deux choses. D'abord que la purification est à conduire autant sur un plan intérieur que sur un plan extérieur, autant sur un plan sur le plan de la conscience que sur le plan du corps. Et deuxièmement, que le sens de tout rite a une dimension essentielle qui est purificatoire.
Merci. J'apporte juste une petite précision sur le mikvé. Les Juifs ne se baignent pas tous les matins dans un grand bassin. Ce serait difficile. Donc non, il y a bien un rite d'ablution aussi avant la prière du matin, avant même la première prière du matin, avec juste de l'eau sur les mains. Et après, le mikvé, c'est plus pour des circonstances particulières, notamment avant le Shabbat, et aussi lié aux menstruations des femmes, ou après une grossesse. Enfin, c'est C'est un peu ce que tu veux. Ça rejoint plus l'usage qu'il y a dans la traduction musulmane que tu as évoqué. Bon, c'est juste par une petite correction.
Une ablution, c'est une purification par l'eau, généralement.
C'est le fait de
tirer
les mains.
Ablution, oui.
Tout à fait.
Les mains et en général un certain nombre de parties du corps, avec en particulier des parties qui sont symboliquement très fortes, le visage, et puis aussi les entrées et sorties. Voilà. Tout ce qui communique entre l'intérieur et l'extérieur. Oreilles, nez, bouche.
Pieds.
Oui, pieds, bien sûr. Si on peut attaquer le sol.